I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 85 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, un résumé des combats de UFC 287 à Miami, Israël Adesanya face à Alex Pereira 2 en MMA bien sûr. Quelques combats sympas quand même à noter sur le main event et aussi dans les prélims. C'est pourquoi on va revoir cette carte des prélims jusqu'au main event. Et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec B-Joe Pfeiffer. L'homme qui a récolté son contrat au Contender Series. Je sais, j'en parle beaucoup, mais en ce moment, il y a un très bon cru venant des Contender Series face à Gerald Merchart. Et combat ben, plutôt sympa hein, quand même hein, sur le plan spectacle quand même, puisque beau KO de Joe Pfeiffer au premier round. Joe Pfeiffer qui a, je pense, l'avantage au niveau des déplacements. Gerard Merchart qui est un petit peu long sur les sorties d'attaque. Et Joe Pfeiffer qui lui, ben, clairement, a gagné à ce jeu-là dans le combat. Alors, je ne veux pas vous vendre non plus ça comme le combat de l'année parce que Joe Pfeiffer n'est pas à date, encore du moins, il n'a que 26 ans, il a énormément une belle marge de progression, pardon. Mais on était surtout sur des attaques très rectilignes en ligne. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, il a été bien meilleur sur les déplacements attaque-sortie, attaque-sortie. Ça, il était nettement plus discipliné que Gerald Merchart qui était un peu feignant, on va dire, au niveau des déplacements arrière. Joe Pfeiffer a été le premier à connecter. Hein. Il a les mains très lourdes. Et justement, encore une fois, sur une sortie un peu tardive de Gerald Merchart, Joe Pfeiffer a réussi à sortir un très beau crochet qui a envoyé Gerald Merchart au sol. Et Gerald Merchart n'a rien pu faire ou n'a rien su faire. Et il ne s'est pas défendu. Il ne s'est absolument pas défendu, il s'est mis directement en position fœtale. Je pense que ça l'a vraiment secoué, évidemment, ce crochet du gauche aussi, pour être dans un état pareil. Et ça lui a pris vraiment plusieurs secondes, je veux dire, avant de commencer à pousser avec ses hanches, pousser avec ses jambes et un peu avec ses hanches, justement, pour essayer de un peu survivre. Mais clairement, il y a eu un abandon. Que ce soit nécessaire ou que ce soit nécessaire, pardon. Oui, c'était peut-être nécessaire aussi, mais qui était vraiment voulu de la part de Gerald Merchart. Je ne sais pas s'il avait tous ses esprits à ce moment-là, mais clairement, il était en position fœtale et puis il attendait la fin du combat. Joe Pfeiffer, lui, a continué à envoyer ce qu'il fallait envoyer, hein, même si c'était des one-shots assez espacés au niveau du Ground and Pound. Clairement, ça devait faire mal aussi, et puis l'arbitre a arrêté le combat comme il le fallait. B-Joe Pfeiffer remporte la deuxième au UFC et ça fait du bien d'avoir un middleweight qui frappe fort, qui a un minimum de discipline, certes dans son style dont on n'a pas encore vu toute l'étendue, je pense, mais un beau petit pédigré pour l'instant pour Joe Pfeiffer. Ça avance bien pour lui, un beau record, il est à 11-2 maintenant en pro, 2-0 UFC, victoire au contender, donc il est pas mal. En ce moment, puis bon, il a été chercher un vétéran qui certes n'a pas le record le plus glorieux, surtout au UFC, même en pro. Mais une belle victoire quand même de Joe Pfeiffer, ça marche bien pour lui. Comme je vous le dis, on est content de les avoir chez les middleweight. La division est bien trop faible pour le moment. On a besoin de 109 et c'est très très apprécié d'avoir des gars comme Joe Pfeiffer qui, certes dans un style. Encore une fois, comme je vous le dis, on n'a pas vu toute la complétude de son MMA. Peut-être il l'a pas, mais il a tous les progrès possibles à faire qui sont sur sa route. Ça peut être un bon prospect. On est content de l'avoir. Moi, le premier, bravo à Joe Pfeiffer. Et on va enchaîner sur un autre combat qui m'intéressait vraiment pas mal. C'était Chris Curtis face à Kelvin Gastelum pour aller closer cette carte préliminaire, donc le mini main event. Et combat, ma foi, fort, fort agréable. J'irais même le mettre dans les combats qui étaient le plus agréable à regarder dans la soirée au niveau de la compétitivité. Hein. Je ne parle pas au niveau technique, c'était quand même un combat fun qui pourrait tomber dans une catégorie Fight of the Night. Parce qu'il y a eu beaucoup de back and forth, parce qu'il y a eu des situations chaudes des deux côtés. Parce qu'à un moment donné, on croyait qu'ils étaient cuits, mais ils ont toujours continué. Et puis, on a vu aussi un Kelvin Gastelum qui est revenu à un niveau, on va dire, plus acceptable et plus au niveau où il l'était il y a plusieurs années. Hein, parce que je vous le rappelle, Gastelum a perdu, il me semble, ses trois derniers combats. Et puis, au UFC, c'est tendu. Hein, ça peut vite passer du mauvais côté. Quand vous êtes tout en haut, vous pouvez vite redégringoler en bas. Et puis, même si on est. Dans une catégorie pas forcément des plus compétitifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Joe Pyfer, où ça manque de compétition chez Middleweight, bah, les deux étaient tout de même classés, hein, mais ils étaient plus vers le fond du classement. Et puis bon, tout pouvait aller très vite pour Gastelum, limite une coupure du UFC. Ça peut aller vraiment vite, mais là, on a eu du Gastelum qui était pas mal, premier round. Déplacement un peu foufou dans la première minute. Je pense qu'il était un petit peu nerveux à sautiller tout le temps. Forcément, après un 0-3, je peux le comprendre, mais il a vraiment bien timé ses low kicks. Ça, il les a vraiment, vraiment, vraiment bien mis dans le premier round. Il timait bien aussi ses attaques au niveau des 1-2 avec ses jabs. Bon, il en a ramassé quelques-unes parce que Curtis était un petit peu plus au niveau dans le counter, on va dire, face à Gastelum, parce que Gastelum jouait plutôt le rôle de l'agresseur dans ce premier round. Et puis, on se retrouve avec un round plutôt, plutôt, plutôt sympa quand même. Puis ce sera Curtis qui ressortira le plus blessé, on va dire, de ce premier round. Et le deuxième, on part un petit peu sur les mêmes bases, mais il me semble qu'il y a un moment un petit peu. Bon, je pense qu'il y a eu un headbutt apparemment, donc c'est un peu confus, mais Curtis a été vraiment mal. Sur la deuxième partie du deuxième round, je pense que c'était un headbutt, il s'est retrouvé au sol et Gastelum a vraiment commencé à accélérer sur lui, et là, ça a été très dur. Et puis je voyais Curtis qui était vraiment en mauvaise position. Et là, clairement, il a perdu ce round-là. Il a peut-être perdu le premier aussi. Donc, c'est sûr qu'il arrive en fin de deuxième dans un moment un petit peu compliqué. Ce qui va nous donner ce fameux troisième round. Parce que là, on a eu du brawl et énormément de réponses de la part des deux côtés. C'était du back and forth avec des grosses droites. Et beaucoup de 1-2 aussi. Déplacements pas forcément les plus fous, mais quand même, attaque sortie et beaucoup de connexions. Les deux en ont pris plein la poire. C'était un beau slugfest, hein, clairement dans le troisième. Mais Gastelum était plus dans le dur vers la fin. Hein. Je l'ai vu aussi regarder la pendule, regarder l'heure, combien il restait de temps dans ce dernier round. Et je pense qu'il restait 1 ou 2 minutes. Ça commence à être chaud pour lui. Curtis renvoyait bien, mais on connaît aussi le menton de Gastelum, hein, dans ses beaux jours, on va dire. Gastelum avait un très bon menton. Rappelez-vous ce combat de fou contre Izzy. Et on a revu un Gastelum qui avait plus clairement cet esprit guerrier-là qu'on avait pu voir contre Izzy et qui, je pense, lui a donné clairement cette victoire face à Curtis. Belle victoire de Gastelum. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, de le revoir heureux et puis de rebondir après toutes ces mésaventures. C'est bon pour Kelvin, pour Chris Curtis. C'est un peu dur parce que lui aussi, je pense qu'il avait besoin de cette victoire, hein, sachant qu'il est un peu en bout de classement chez les middleweight. Mais quand même, combat sympa. Ça fait plaisir de voir Gastelum dans du bonheur, on va dire. Tant mieux pour lui. Il faut aussi avoir un minimum quand même de sympathie pour ces êtres humains qui donnent leur vie et qui passent par des hauts, passent par des bas. Et même si tu es dans la plus grosse des organisations, passer dans le dur en tant que sportif pro, alors que tu étais en train de batailler pour un titre intérim et puis quelques années plus tard tu te retrouves en fin de classement à 0-3, c'est bon pour lui. Bravo à Kelvin, mais bravo aussi à Chris Curtis parce que les deux nous a donné un combat fun à regarder. On rentre dans le main, dans, pas dans le main event, dans la main card, pardon, entre Raul Rosas Junior et Christian Rodriguez. Alors ce combat-là, je l'attendais énormément parce que je voulais voir Raul Rosas contre un gros client. Hein. Raul Rosas Junior, je vous en ai déjà parlé une paire de fois, même j'en ai parlé sur Twitter pendant les Contender Series, où il m'avait énormément impressionné avec son niveau de grappling complètement fou. Et comme je l'ai dit dans son combat précédent, des erreurs au niveau des positionnements gardé sur des périodes trop courtes. Hein. Donc, par exemple, une prise de dos où il se retrouve un peu trop haut au niveau du dos de son adversaire, qu'il le secoue, il perd le dos. Ça lui est arrivé plusieurs fois. Et j'ai revu des moments comme ça dans ce combat-là, mais il y a évidemment bien plus à dire au niveau de ce combat, compte tenu De la finalité du combat, mais même du déroulement complet du combat. Il y a énormément à retenir pour Raul Rosas Jr., mais aussi pour Christian Rodriguez, qui a gagné un nouveau fan en ma personne. Raul Rosas Jr. a attaqué très, très fort deux fois. Quand je dis deux fois, c'est très, très fort au début. Début de round du premier round et début de round du deuxième round. Si je vous le dis tout de suite par rapport au deuxième round, c'est parce que c'était déjà une erreur et une erreur de jugement, une erreur tactique de la part de l'américain mexicain Raul Rosas Jr. parce que c'est bien de foncer, c'est bien d'être confiant, mais ça ne marche pas tout le temps. Et face à un adversaire qui a beaucoup plus d'expérience, même si au niveau des combats pro, ils n'en ont pas tant plus que ça, mais il y en a un qui est quand même plus vieux, plus bonhomme, genre 10 ans de plus, et l'autre qui est quand même jeune, slash, avec quand même cette étiquette de prodige, etc. Mais 18 ans, même si tu as fait plusieurs de combats, genre, t'es pas, encore une fois, désolé, mais un bonhomme dans la trentaine avec qui a roulé sa bosse, quoi. Puis ça s'est ressenti un petit peu parce qu'en face de lui, c'était un black belt en jiu-jitsu, un gars qui gérait super bien la défense de takedown. Raul Rosas a foncé tout du long du premier round. Et quand je dis foncé, c'est évidemment en grappling sur son adversaire, le pousser contre la cage, le mettre au sol plusieurs fois. Et il a gagné le premier round. Il a gagné le premier round. Ça a été très beau. Des très belles séquences, magnifiques échanges, mais par contre, super défense de takedown de Christian Rodriguez aussi. Hein. Même s'il se retrouvait contre la cage face à Raul Rosas, qui avait des fois des double underhook, etc. Christian Rodriguez allait toujours chercher un wizard, se débarrasser des crochets dans ses jambes, se relever, poster, squatter énormément. Enfin, c'était magnifique de défense de grappling de la part de Christian Rodriguez, qui n'a jamais abdiqué dans ce premier round. Même s'il s'est fait prendre plusieurs fois son dos, on va dire plus à quatre pattes qu'au sol, même debout, à un moment donné, il a su se relever, mais Raul Rosas Jr. lui a sauté, vraiment lui a bondi dessus sur le dos, a passé le body lock debout et a travaillé fort pour aller chercher l'étranglement arrière, le rear naked choke, mais la défense de main de Christian Rodriguez était incroyable, jamais paniqué, absolument jamais paniqué, toujours défendre la main quand il le faut, aller chercher l'avant-bras de Raul Rosas avec les deux mains pour le descendre et resetter l'attaque de Raul Rosas Jr. pour pouvoir mieux défendre derrière, etc. Magnifique. Et ça présageait du très très bon pour Christian Rodriguez. Et Raul Rosas Jr., évidemment, comme les commentateurs le disaient, hein, Cormier le disait, il avait raison. Cormier qui était d'ailleurs je trouve un peu meilleur, qui devient de mieux en mieux dans ses commentaires, avec des réflexions très justes, notamment sur le fait est-ce que Raul Rosas va être claqué pour les prochains rounds, et oui, ça lui a donné raison, et puis moi aussi j'avoue que j'avais un peu peur en fin de premier. Parce que lui, en fin de premier, il a aussi essayé de serrer le cou de son adversaire comme pas possible, lui cranker la face comme pas possible, et il a laissé beaucoup de jus là-dedans, dans cette tentative de finition. Et ça s'est vu dans les deux rounds derrière, hein, où à partir de ce moment-là, de la fin du troisième, c'est parti complètement crescendo vers le bas. Mauvaise tentative de takedown. Télégraphé, téléphoné, pas assez poussé et clairement attendu de la part de Christian Rodriguez qui se prôle très très bien. Comme je vous l'ai dit, dans le premier round, sa défense de takedown sont magnifiques, il a une bonne lutte. Il s'est retrouvé au-dessus de Raul Rosas plusieurs fois. Raul Rosas qui s'est retrouvé en position de tortue maintes fois. Et puis Christian Rodriguez qui a réussi sur une de ses positions défensives de Raul Rosas, ou alors soumissive, de Raul Rosas, de prendre son dos. Et puis la différence aussi entre Rodriguez et Raul Rosas, c'est que il n'a pas essayé de forcer comme un sangouin pour aller chercher une rear naked choke. Il sait que le kid est bon aussi. Et il a pris son temps, l'expérience, comme je vous ai dit, prendre son temps. S'il sent que ça va être dur de le finir, potentiellement, peut-être tu peux aller gagner des rounds et puis gagner le combat. Et puis c'est exactement ce qu'il a fait. Mais il a aussi frappé Raul Rosas, il a envoyé beaucoup plus de coups, plus de ground and pound. Même quand il avait son dos, il allait lui mettre des petites patates bien piquantes dans la face quand il avait le body lock sur Raul Rosas. Et puis la même chose en troisième, mais encore pire. clairement. Même si ça a commencé un peu debout, bon, ça s'est fini en bas aussi, puisque encore une fois, il y a eu des mauvaises tentatives de takedown de Rosas. Christian Rodriguez se retrouve au-dessus. Et on continue sur le même schéma avec un Raul Rosas qui est cuit, terminé, fini. Petite dernière séance de Grand and Pound pour finir. Enfin, voilà, c'était... il a surfé... Moi, je sais ce que je trouvais. Il surfait sur Raul Rosas, c'était... bon, il y avait la fatigue qui rentrait dedans, hein, mais le niveau de grappling au sol, à la fin, c'était un rôle dominant au gym, au dojo, de la part de Christian Rodriguez. Il était au-dessus, il lui surfait dessus, clairement. Le calme de Christian Rodriguez, vraiment impressionnant. Je trouve Fight IQ parfait. Bon, après, Raul Rosas l'a aidé, hein, clairement, comme je vous le dis. Les tentatives de takedown, ça n'a pas marché parce que contre la cage, il s'est vraiment bien démerdé en première round. Je suis sûr qu'avec plus de retenue et un fight IQ un peu plus évolué, il aurait pu gagner ce combat. Il aurait pu. Parce qu'il était plus talentueux, je trouve. Et puis il l'est peut-être même, hein, si au niveau du pur talent, il est plus talentueux que Christian Rodriguez. Si ça ne l'est pas maintenant, ce sera dans quelques années. Mais les décisions n'étaient pas bonnes. Et ça, il l'a payé le prix cher et j'espère qu'il va en apprendre et qu'il va se calmer et que ça va être un back to reality check. Quoi. T'as besoin d'un reality check tout le temps en tant que combattant, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans un combat. C'est que quand tu te vois trop haut, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'en mette une pour que tu comprennes que ben, y a toujours plus fort que toi, il y aura toujours plus fort que toi et que si tu ne fais pas attention, si tu brûles tes étapes, eh ben, tu vas te faire stopper plus tôt que tu devrais te faire stopper. Ce qui lui est arrivé, il aurait pu gagner. Je pense. Il était meilleur que lui dans le premier, il avait plus de force au niveau des takedowns, et puis s'il avait eu une approche plus constructive de son grappling hein, dans le combat, même du combat en général aussi, bah, il aurait pu prendre le dessus, mais il a décidé de trop rusher, il a tout cuit, et Christian Rodriguez est très très bon, défensivement très très bon, offensivement il a été meilleur, mais plus intelligent aussi, il l'a pas fini, mais il a gagné les deux dernières rounds, easy, il en ressort avec aucun damage et une victoire pour lui face à un très beau prospect des Bantamweight. D'ailleurs, Christian Rodriguez, bah voilà, chez les Bantamweight, si ça se trouve, il va paraître comme un gars moyen, tellement c'est compétitif, mais c'est à quel point les fighters sont tellement fous dans cette KT. J'ai envie de le revoir vite, hein, quoi, parce qu'il était super bon. Je ne pense pas qu'il soit très vieux non plus. Donc, ouais, C-Rod, hein, donc il est bon. 9 et 1 maintenant, l'Américain. On est bon, 25 ans, Christian Rodriguez, beau aussi, bel avenir, clairement à suivre. On peut passer au combat suivant chez les welterweight, Kevin Holland, qui paraissait vraiment skinny, hein, vraiment affûté. Clairement, il est moins impressionnant qu'en middleweight, mais ça lui a peut-être servi, on va en parler un peu, face à Santiago Ponzinibbio, l'Argentin welterweight. Combat, bah, pas des plus passionnants, parce que premier round, deuxième round, il ne se passe pas grand-chose. Il y a eu beaucoup de... on va dire, de la part de Kevin Holland, il y a eu beaucoup de gestion avec la distance, mais de la bonne défense face au strike assez uniforme de Santiago Ponzinibbio. Et ça, dans le premier comme dans le deuxième. Alors, Santiago Ponzinibbio a gagné, on va dire, la bataille des low kicks. S'il y en a eu une, il en a envoyé plus. Kevin Holland en a ramassé quelques-uns. Mais quand il s'agissait de passer sur des attaques qui pourraient faire plus mal avec des strikes plus effectifs, ben Santiago Ponzinibbio ne posait absolument pas assez de problèmes à Kevin Holland qui avait plus de facilité à se déplacer et qui avait aussi l'avantage du reach. Donc à chaque fois que Santiago Ponzinibbio essayait de lancer des gros crochets, des gros overhand, bah Kevin Holland roulait bien avec ses épaules un peu comme en anglaise et aussi avait toujours sa main pour protéger sa mâchoire. Alors certes, Santiago Ponzinibbio touchait des fois, mais jamais effectivement parce que, encore une fois, Kevin Holland roulait bien au niveau des épaules et il n'y a rien qui lui a vraiment fait mal. Tandis que Santiago Ponzinibbio, lui, s'est fait toucher deux fois. Alors, fin de premier round, low kick de Kevin Holland, Ponzinibbio le catch. Kevin Holland essaie de lui envoyer des petites baffes. Et, Santiago Ponzinibbio recule et avance d'un coup. Et puis, il se prend un back fist de Kevin Holland qui l'envoie au sol. Bon, on est sur la fin du round, donc il est pas mal sauvé. Puis dans le deuxième, je crois que Kevin Holland l'a connecté avec une droite directe aussi, qui a secoué Ponzinibbio, mais rien fou au niveau des événements. Troisième round, par contre... Là, c'est différent. Cette fois-ci, c'est Kevin Holland qui va aller chercher un kick de Ponzinibbio. Ponzinibbio recule, mais pas assez vite. Et puis, avec les longs bras de Kevin Holland, Kevin Holland va charger un crochet du gauche qui envoie Ponzinibbio direct au sol. Kevin Holland va suivre. Alors, Ponzinibbio est en position même pas de tortue parce qu'il protège rien du tout. Il est juste à quatre pattes. Hein. C'est pas la tortue, c'est vraiment à quatre pattes. Et Kevin Holland envoie une droite, l'arbitre arrête direct. Ponzinibbio a l'air un petit peu fâché de ce early stoppage qui n'en est pas un, puisque Ponzinibbio était vraiment en train de regarder leur garde en ville, en train de regarder le mat par terre sans rien protéger, pas de position tortue, pas de position fœtale. Et même après le premier coup de Kevin Holland, il était toujours dans le même état, il n'a rien fait. Et bon, l'arbitre est intervenu, je trouve, au juste moment. Donc, victoire cool pour Kevin Holland, rien d'impressionnant. Encore une fois, je tiens à le préciser aussi, il n'y avait rien de fou. Beaucoup de gestion de la part de Kevin Holland. Alors lui, il est un petit peu en vitesse de croisière, on va dire au UFC, tranquille. Il a mis le limitateur de vitesse à 130 sur l'autoroute, il ne bouge plus, quoi. Et ça marche. Donc pourquoi pas continuer. Il s'en fout, il va entre division une autre, là, il repart en welter. Enfin voilà, il est cool, Kevin Holland aussi. Donc c'est drôle parce qu'il a sauté la cage et il va parler à Dana White. Et puis je savais pas que Donald Trump était là. Et puis après, quand j'ai vu, j'ai compris, j'ai fait le lien entre Masvidal et Donald Trump. C'est drôle parce qu'il parlait à Dana White, mais genre il a même pas, Donald Trump est en train de le regarder, il l'a absolument pas calculé, ça m'a fait rire. Et puis après, voilà, il a parlé à Dana White et il est retourné dans l'octogone. Victoire de Kevin Holland avec la manière dans le troisième, du moins. Voilà. C'est ce qu'on va retenir. On passe direct au combat suivant. Rob Font face à Adrian Yanez. Sûrement, allez, on va dire le deuxième combat que j'attendais le plus sur la soirée. Une énième bataille chez les Bantamweight. Catégorie de fou furieux. Et puis ce combat-là, je l'attendais. J'en ai parlé dans le preview vite fait. C'était Adrian Yanez face à Rob Font. Deux gros classés. Adrian Yanez qui était invaincu au UFC. Et Rob Font qui lui baroudeur de la catégorie, hein, un gars qui s'est quand même battu face à des gros noms, 35 ans, certes des défaites, mais des défaites contre José Aldo et Marlon Vera, excusez-moi, victoire avec contre Pettis, Sergio, Ricky Simon, Marlon Moraes, Cody Garbrandt, Thomas Almeida, calmons-nous, défaite face à Rafael Asensio, tu sais, c'est ça va quoi. Ça va, il s'est battu contre Pedro Munhoz aussi. Le mec, il a baroudé chez les Bantams dans la catégorie d'assassins du UFC. Respect à Rob Font rien que pour ça. Et Adrian Yanez, lui, le newcomer, hein, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et qui a, lui, je crois, 5 victoires au UFC, qui avait 5 victoires au UFC, qui vient des Contender Series saison 2020. Enfin voilà, 3 Performance of the Night, Fight of the Night, un vrai loubard. Non, ça rigole pas chez Adrian Yanez. Et puis quel combat entre les deux, quoi. On a eu une vraie petite folie avec un back and forth complètement fou. Que de l'anglaise quasiment, et puis du jab plein de poire, et du brawl, et puis Rob Font qui lui, au niveau de la première, deuxième minute, commence déjà à avoir la poire qui gonfle. Alors certes, lui, évidemment, comme je vous l'ai dit, il a eu des grosses batailles auparavant, il s'est vraiment beaucoup battu contre des fous, hein, dans une catégorie de fous, donc... Sa face tend à gonfler. Hein. Je vous rappelle, il a fait genre quelque chose comme, il me semble, 3 combats en 5 rounds aussi contre des malades. Donc voilà, il a la face qui gonfle un peu facilement. Et c'est ce qui est arrivé. Mais c'est pas le genre de gars à abandonner. Hein. D'ailleurs, il s'est jamais fait knockout, il me semble, au UFC. C'est un gros client. Un très, 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 très gros client. Et Adrian Yanez en a payé les frais. Malheureusement pour Adrian Yanez, c'était, je pense, c'était sa plus grosse marche, clairement, je crois. Et c'était peut-être trop pour lui déjà. Parce que se retrouver face à un dur comme ça, ça peut, encore une fois, ça peut être un reality check, un retour très très dur à la réalité. Qui est que, attention, quand ça cogne fort dans la face, comme Rob Font, ça peut faire super mal et il en a clairement payé les frais. Yanez touchait plus en début de round. Comme je l'ai dit, la face de Rob Font a gonflé, mais quand Rob Font a commencé à s'énerver, qu'il est passé en mode agresseur et que Yanez en a pris plusieurs, Ça a été très dur parce que il a pas su gérer les assauts de son adversaire et s'est retrouvé. Il aurait dû sortir de la poche parce qu'il était plus en confiance dans la poche, mais il s'en était pris plusieurs déjà avant. Ça aurait dû être un avertissement. Et comme je vous dis, quand Rob Font a accéléré, mais plus de power, ça lui a été fatal. Hein, ce dernier fameux crochet du droit très rapide, Yanez a eu la face explosée. Il s'est retrouvé au sol. Rob Font a suivi avec du gros ground and pound. Et Yanez était out. Déjà, ça se voyait dans ses yeux. L'arbitre n'a pas arrêté tout de suite. Il a eu raison, je pense, de laisser un petit peu tourner. Mais Yanez n'était plus trop là. Il en a pris 3-4. Et là, il a arrêté au bon moment. Il regardait dans le vide, Yanez, après ce dernier coup. Mais c'est clair que sa face a vite tourné. Il s'est pris un beau KO. Et au sol, même s'il avait les mains vraiment au-dessus de la tête pour clairement essayer de se protéger, il était plus trop là, il était vraiment en mode survie, et Rob Font a terminé le travail, KO en moins de 3 minutes au premier round, énorme victoire de la part de Rob Font, beau rebond après deux défaites. On resecoue les dés une fois de plus dans la catégorie des bantams. Où va se retrouver Rob Font? Je crois qu'il y a peut-être moyen qu'il repasse dans le top 10. 35 ans, rebondir sur une victoire face à un newcomer comme ça qui est Adrián Yanez, c'est beau. C'est la beauté de ce sport et c'est la beauté de cette catégorie dans l'organisation reine du MMA. Bravo à Rob Font. Ce co-main event entre Gilbert Burns et Jorge Masvidal. On en a pas mal parlé. On a fait beaucoup d'analyses fantaisistes sur les possibilités de ce combat. Et on a aussi quand même pointé du doigt unanimement, j'ai l'impression, mon retour, on va dire, les retours, les impressions que j'ai eues autour de Jorge Masvidal, Gamebred, c'est que la marche était peut-être un peu haute pour lui, surtout compte tenu de son état, on va dire, sportif actuel. 38 ans, 3 défaites de suite, on l'a propulsé tout en haut après une belle série qu'il a mérité, hein, d'être tout en haut, mais des performances décevantes quand même, il faut le dire, face à des fighters qui, certes, comme je l'ai dit en preview, étaient assez unidimensionnels dans une certaine discipline et ça lui portait préjudice, hein, notamment Colby ou Ousmane. Mais Ousmane, quand il a changé de la lutte pour aller sur du stand-up, il lui a éclaté la tête pareil. Je ne vais pas refaire l'analyse. C'est juste pour vous mettre un peu de contexte. Et on s'est retrouvé un peu dans la continuité de cette analyse avec un round 1 un peu plus, on va dire, qualitatif pour Masvidal que les deux derniers rounds. Mais un gros manque, un gros, énorme manque de display, comme disent les anglophones. Ça manquait clairement d'enthousiasme de la part de Masvidal, ça manquait de volume, ça manquait de combinaison. Je vois qu'il est toujours capable d'envoyer des beaux kicks. Je vois qu'il a envie de se battre, mais quand il commence à tourner le combat en chaud alors qu'il est en train de perdre, clairement, surtout après les doutes qu'on aimait de lui, c'est pas ça qui va augmenter sa cote de popularité sportive, on va dire. Premier round, encore une fois, je trouve que c'est quand même Gilbert Burns qui prend les décisions d'attaquer et de rester debout. Alors, beaucoup de monde pourront dire « Oui, pourquoi il n'a pas cherché à le mettre au sol tout de suite ?» Gilbert Burns, c'est un fighter. Et on l'a vu contre Hamzat, il aime bien aller à la guerre aussi. Et puis contre Masvidal, je pense qu'il avait envie de faire un peu de debout, mais aussi timer ses takedowns. Parce que Masvidal, c'est pas censé, je dis bien, c'est pas censé être une bille en défense de lutte. Et du coup, je pense qu'il a commencé à faire un peu de debout. Il a fini par passer son takedown en toute fin de round. Sur les 1-2, il était plus agressif. Il a touché pas mal de jabs. Bon, certes, Masvidal l'a connecté une ou deux fois, mais jamais vraiment avec tant de power et d'envie de finir son adversaire. Ou alors du moins de lui faire très mal, en plus. Donc, Je pense que l'avantage était quand même à Burn, même si bon, allez, on peut réfléchir un peu, mais le round était un peu serré, mais Masvidal montrait toujours pas assez. Et je dis peut-être ça parce qu'il y a aussi le ressenti du round 2 et du round 3 qui étaient clairement perdus pour Masvidal. Hein. Je crois que les scores majoritaires ont été 29-28 pour Gilbert Burns, qui me semble logique. 30-27, pourquoi pas, mais 29-28 faire complètement du sens. Les deux. De rentre derrière, bon ben Gilbert Burns a bien géré ses takedowns, a gardé Masvidal au sol, même s'il était dans la garde complète de Masvidal, Masvidal face à Burns sur son dos, ben on n'attendait pas grand chose et ça n'a pas donné grand chose. Burns a essayé de travailler pour passer un peu de ground and pound, passer un peu de coude, lui placer l'avant-bras en dessous du menton pour aller travailler, etc. Bon, Masvidal a su rester dans la garde complète pour un moment donné, mais bon, dans la garde fermée, pardon. Mais Gilbert Burns, voilà, était au-dessus et c'est lui qui travaillait le plus, c'est lui qui prend le round. Troisième round, Gilbert Burns a réussi à mettre son adversaire au sol plusieurs fois aussi. Enfin, voilà, mais ce que j'ai trouvé bon aussi de Gilbert Burns, c'est que les moments où il était vraiment dominant dans le striking, je ne sais plus si c'était dans le deuxième ou dans le troisième, face à Masvidal, où Masvidal était contre la cage et il lui en a collé plusieurs, hein, d'empêche de la droite. Masvidal est resté debout. Donc ça, chapeau, parce que quand même toujours un menton et puis toujours une forme physique qui lui permettait de survivre à ces moments-là et de rester relativement, je dis bien relativement, confortable. Hein. Et quand je dis ça, c'est qu'il n'est pas sur le cul avec la tête à l'envers. Mais bon, à part tirer la langue, enfin voilà, 50 fois en plus, c'était limite aussi énervant que Miley Cyrus et son buzz de 2 semaines, quoi. Le gars a pas arrêté de tirer la langue, à faire genre je suis toujours là, mais non, tu te fais ramasser, man, en ce moment. T'es chez toi à Miami, tu joues les gangsters et tu te fais massacrer encore une fois. Enfin, c'est comme contre Colby, quoi. Comme contre Colby, pardon. C'est à la fin du round, il le perd, il fait ouais, je te reprends, je te défends. C'est genre, dude, t'as eu 5 rounds dans une cage et t'as rien su faire. Certes, en lutte, c'était chiant, mais on vous a mis 2 hommes dans une même cage et vous avez le droit de vous mettre aussi mal que vous voulez et tu n'avais rien fait. Et là, ben, contre Burns, ben, il ne s'est pas passé grand-chose non plus et t'as pas montré assez de volume, t'as pas montré assez en général. Et tandis que Gilbert Burns, lui, il accepte un combat contre Masvidal, ce qui n'est pas forcément ce qui va le plus lui profiter à sa carrière à ce moment-là, à 36 ans, mais il le prend quand même, il le bat. Et en plus, tu rends hommage à Jorge Masvidal qui, de toute façon, ça, je ne veux pas le retirer. Hein. Le gars, il a quand même la carrière qu'il a, d'où il vient, etc. Il doit avoir il a plus de 50 combats pro en MMA, ça c'est énorme. Donc, respect à Masvidal à 100%. Mais pour les performances comme ça, je m'en calisse, moi, de Masvidal, là, maintenant. Je suis désolé, ça ne m'intéresse pas, quoi, de le revoir dans la cage, parce que ça baisse vers le bas à chaque fois, quoi. Et à chaque fois, on en voit de moins en moins. Et puis là, il a eu l'occasion de faire plus debout dans le premier round. Et même si il a été, on va dire, au moins un jeu égal avec Gilbert Burns, bon, ben, c'était pas non plus flamboyant. Et je ne pense pas que ça leur sera un jour. Parce qu'on est sur la fin, parce qu'il a eu plusieurs occasions de montrer quelque chose, il ne l'a pas fait. Et comme je vous l'ai dit, face à des fighters unidimensionnels, ça ne marche pas ou plus du tout, du moins. Et là, dans les 2 rounds suivants, où Gilbert Burns a fait de la gestion au sol, ben, Masvidal n'était plus du tout là. Et il a perdu le combat. Donc voilà, on est sur le même narratif encore et encore, combien de fois on le veut. Moi, ça ne m'intéresse plus trop. Est-ce que ça intéresse les fans? Sûrement certains fans hardcore de Masvidal. Encore une fois, je ne retire absolument rien à la carrière de Jorge Gamebred, qui vient de rien et qui a été chercher beaucoup. Énormément, qui a été chercher des gros combats, qui a knocké des fighters comme Cowboy, comme Darren Till, etc., des grands noms. Je sais que c'était pas non plus forcément les plus gros compétiteurs à l'époque, mais le gars a été se battre contre Usman, il a fait 5 rounds contre Usman, il a sorti un combat de gangster à ce moment-là, vraiment, contre Nate Diaz, et il l'a torturé, et voilà, c'est belle carrière, mais là, on s'est fait chier en le regardant. Heureusement que Gilbert Burns était là pour lui faire le taf. Bravo à Dorigno, ce mec est un vrai, on l'aime bien, on ne peut que l'aimer. Et comme je vous dis, il a rendu hommage à Masvidal directement avant de parler de lui et de parler de sa performance. Et comme il le dit, C'est peut-être un des seuls qui vraiment est prêt à accepter n'importe qui, n'importe quand, Khamzat notamment, et Masvidal, alors que ça ne lui était pas bénéfique. Voilà, maintenant il veut soit Leon Edwards, soit Colby Covington pour le prochain title shot, pour le prochain titre, parce que là il vient peut-être de prendre son title shot, who knows. Voilà, c'est intéressant pour Durinho, pour le peu d'années qui lui reste à venir, parce qu'il a déjà 36 ans, hein, mais il est clairement toujours là. Bravo Gilbert Burns. Et l'on peut passer au main event. Alors celui-là, c'était clairement du lourd, parce que rien que pour le fait d'avoir Israel Adesanya face à Alex Poatan Pereira 2, vraiment pas longtemps après le dernier combat, novembre 2022 au Madison Square Garden et avril 2023 à Miami, c'est quand même pas mal de la part du UFC, aussi des deux fighters, hein, clairement, de retourner dans l'octogone après si peu de temps, respect aux deux. Bon, après, ça aurait pu être, ça pourrait plus être plus tard, on aurait été patient aussi, tu sais, mais c'est quand même nice de la part de toutes les parties, de tous les acteurs de ce combat, d'avoir mis ça en place. Allez, rentrons dans le sujet direct, round 1. Intéressant, le niveau du round 1, parce que Easy, je l'avais dit pour la preview, je pense qu'il devait avoir une meilleure gestion de l'espace dans l'octogone et de la distance avec Alex Pereira, essayer de ramener le combat au centre de l'octogone, ce qu'il a bien fait au premier round, puisque il a réussi à... il avait réussi aussi dans le premier combat à feinter Alex Pereira dans le premier round et à gagner le respect d'Alex Pereira avec ses feintes et de lui faire prendre ses feintes, de bien le baiter. Et là, il réussissait mieux à gérer la distance, avancer, reculer sur son adversaire, mais toujours essayer de garder l'action au centre de l'octogone. Et ça, ça a plutôt bien, on va dire, marché pour Izzy, même si Alex Pereira a posé de sacrés problèmes aux néo-zélandais, nigérians, Easy, l'ex-champion, certes changé de stance pour, je pense, des idées de déplacement, etc. Mais aussi parce que Pereira lui a fait mal. Il n'a même pas besoin de forcer à tourner les hanches comme un porc, Pereira, pour placer ses beaux calf kicks. Il le fait assez rapidement, mais il met beaucoup de puissance sans forcément mettre tous les efforts du monde physique et tourner ses hanches comme pas possible et mettre des gros power leg kicks pour pouvoir justement casser le rythme et la jambe d'Adesanya. Il le fait très bien, rapidement, etc. Ça, il maîtrise très bien cette technique et ça a été un problème pour Izzy dans le premier comme dans le deuxième. Alors, pas énormément d'action, certes, dans le premier, mais Easy aura été le seul à sortir la première vraie combinaison dans le premier round, avec un 1-2-3 au niveau des mains, et finir avec un kick. Voilà, la règle du Muay Thai, c'est de finir avec un kick pour faire mal dans tes enchaînements, mais bon, quand Pereira s'est tendu, parce que tu veux jamais trop, du moins, en faire ce type de combinaison, parce que tu restes à une distance dangereuse de Pereira, et c'est là que tu peux perdre, et on l'a vu. Pereira a fini plusieurs adversaires comme ça, et puis il a réussi à finir Easy en le poussant contre la grille dans le combat d'avant, mais là, Easy, justement, comme je vous l'ai dit, premier round, il gère bien le fait de vouloir amener ce combat-là au centre du ring, et même quand il s'est retrouvé contre la grille, voilà, il a réussi à s'en sortir, à ramener ça. Premier round, on va dire assez équilibré. Hein. De toute façon, avec l'action qu'il a eue, ce serait n'importe quoi de dire. Il l'a clairement pris aussi ou ça. C'était serré. C'était clairement serré. Et je pense que dans le deuxième, Pereira l'a compris et a voulu, encore une fois, avancer plus sur son adversaire. Il a réussi à plus avancer sur Easy. Et d'ailleurs, Izzy s'est retrouvé à ce moment-là contre la grille. Et encore une fois, ces maudits calf kicks qui ont fait mal à Izzy et qui ont fait très très mal sur cette dernière séquence, puisque Izzy a fléchi la jambe, ça lui a fait clairement mal. Et puis, il s'est retrouvé dans une position clairement défensive où Alex Pereira commençait à enchaîner. Il est arrivé sur un espèce de double crochet droit-gauche. Il en a envoyé une encore avant et puis après, il va chercher la tête de Izzy pour passer un genou, et Izzy est vraiment en position avec la main en mode tortue en haut avec le casque, quoi. Il se met le casque avec les deux mains et Pereira essaye d'envoyer justement un dernier crochet, mais là ça faisait quatre coups. Et puis encore une fois, la règle en pied-point, c'est quand tu es dans les cordes et que tu t'en prends deux, trois, c'est déjà trop, quatre, c'est trop là. Et tu es obligé de répondre avec quelque chose. Et Izzy a répondu avec une droite qui est passée au travers de la garde de Pereira qui lui est arrivée pleine face. Pereira a eu la tête qui a reculé clairement en arrière. Ça, c'est celui qui lui a fait vraiment mal. Et quand sa tête est revenue pour revenir vers Izzy, où il allait se remettre un petit peu dans l'action, bah Izzy a renvoyé exactement la même. Ça lui a retapé le haut du crâne après la mâchoire. Merci, quoi. Et ça, clairement, ça l'a knockout. La tête qui... Enfin, voilà, Pereira qui tombe d'une façon au ralenti. On pourrait voir ça d'une façon très dramatique, poético-majestique. Tant cette histoire entre les deux est fascinante, une vraie tragédie. C'est magnifique d'avoir ce KO-là après tout ça, la tête de Alex Pereira qui rebondit contre le sol. Alex Pereira qui est pendant de longues secondes, hein, quasiment une minute, encore dans les étoiles avec la team du UFC, sûrement le médecin qui vient le voir pour lui dire de ne rush pas, n'essaie pas de te relever tout de suite, c'est terminé, tu es encore un peu dans les pommes. Waouh! Waouh. Et puis Izzy qui fait la célébration littéralement de Poitane avec l'arc à la flèche, le chasseur de l'Amazone du Brésil qui se fait chasser. Mais vous savez quoi? Cette séquence du deuxième, ça ressemble quand même beaucoup à la séquence du premier round pendant le premier combat de MMA entre les deux, où Pereira s'était fait sauver par la cloche parce qu'il avait les deux jambes qui vacillaient et puis Izzy lui en avait mis une bonne aussi. Et c'était chaud pour lui à ce moment-là, et sauvé par la cloche et... Cette fois-ci, Izzy a réussi à finir. Izzy a toujours cette dynamite dans les mains. Il est là. Il est éternel. Il a eu des combats qui ont été un peu plus chiants sur des défenses de titre, mais tu ne veux pas forcément aller prendre des risques, tu ne veux pas forcément tant te fatiguer que ça. Et puis, si ton but, c'est d'être professionnel et de remporter les rounds, tu le fais, tu regardes ta ceinture et puis ça se passe bien pour toi. Et puis, le hate qu'a eu Izzy a été vraiment déconcertant parce que c'est quand même la bénédiction des middleweight, une bénédiction même au UFC, d'avoir une superstar comme ça. Et là, d'avoir cette rivalité face à Poitane et d'avoir perdu deux fois en kickboxing, une fois en MMA, même si la première fois en kickboxing, encore une fois, c'était pas forcément la défaite. Voilà, c'est beau d'avoir ce retour, un narratif de fou. Et puis, je suis absolument pas le gars qui est fan de discours inspirationnels avec toute la merde qu'on bouffe sur Instagram et les réseaux en général. Ça a été gangréné par toute une gang de fake et de poseurs. Mais là, des discours quand même, quand ça se passe vraiment dans ta vie, c'est ces moments-là et qui te dit genre, je souhaite à tout le monde d'être aussi heureux que ce moment-là, que je le suis maintenant au moins une fois dans ma vie. C'est cool. C'est cool de vouloir le bien des autres. Je trouve ça bien, tout simplement. Le capital superstar, sympathie de Izzy est toujours là. Le côté striking foufou est toujours là. Mais là, quand on est avec des bonhommes contre Poitane, quand on est contre ton Némésis, c'est différent. Et il a fallu être bon au niveau de la tactique. Et Izzy l'a été, du moins dans le premier round, dans le deuxième aussi. Peut-être que si ça avait continué, c'est Loki qui aurait été vraiment un problème et lui aurait pourri le combat. Mais Izzy sait répondre et il a des counters de fou. Et il nous l'a montré encore une fois. C'est pas la... Enfin, voilà, il a gagné sur des counters magnifiques. Il a envoyé plusieurs adversaires, des grands comme Whittaker, sur des counters magnifiques. Il les a toujours. Paulo Costa aussi. C'était pas Paulo Costa. Enfin, voilà. Avec le recul, c'est pas le meilleur. Mais toutes ces victoires, et c'est génial. Et là, contre Poitane, il nous renvoie, encore une fois, une Vénus de Milo dans l'octogone. C'est très beau. Et j'aime beaucoup le narratif et tout le monde aime le narratif. Si t'es un fan, c'est cool d'avoir une revanche. Et aura-t-on un troisième combat? Je suis pas sûr. J'ai juste envie de vraiment savourer un moment de sport comme ça. Et puis des fighters comme Izzy nous apportent des moments de sport comme ça. C'est beau le MMA, c'est beau les sports de combat. Merci en tout cas à Izzy, merci à Poitain aussi d'être arrivé et puis d'avoir lui aussi eu un narratif complètement fou, lui qui a eu un title shot et une ceinture aussi vite dans sa carrière au UFC. Voilà, c'est des beaux moments et merci à eux et voilà, merci aux combattants en général et puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode qui m'a fait et qui a été un gros plaisir pour moi à faire parce que encore une fois ça fait longtemps que j'ai pas fait une analyse et puis voilà, Izzy c'est toujours quelque chose de spécial aussi et Izzy Poitain c'est très très spécial et ça le sera pour l'éternité quoi qu'il arrive par la suite. Merci pour l'écoute de cet épisode. Suivez-moi sur Twitter @guillotine514, suivez-moi sur Instagram @guillotine_ podcast et suivez-moi sur YouTube. Merci à tous, on se reparle très bientôt. Ciao. At the end of the day, it is